Philosophie première par le Père Philippe à Saint-Judas, le 21 mars 90.
dire que le problème de la personne est en dehors de la philosophie de Bergson, mais je ne crois pas, sauf si vous unissez Bergson avec Durée et élan vital. C'est la durée et l'élan vital qui est l'intuition dominante de Bergson. Alors n'oubliez jamais une des paroles importantes que Bergson a dit et qu'on doit appliquer pour lui quand on essaie de le comprendre. Quand on étudie un philosophe autre que notre propre pensée, cherchons toujours l'intuition dominante de ce philosophe. Ça, c'est très juste. Quelle est l'intuition dominante de Bergson? La durée, l'élan vital. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est la personne. Que c'est la personne. On ne peut pas dire ça. C'est pas ça qui est la trame la plus profonde. C'est la surâme. C'est très curieux parce qu'il revient à l'âme, mais pas du tout comme principe vital, c'est comme une conscience interne. Alors il y aurait, dans la même perspective que Bergson, Alexander et Whitehead. Puissance créatrice de l'homme comme condition de sa personnalité. Pour Berdiaev, faut-moi le citer. Le problème de la personne est le problème fondamental de la philosophie existentielle, dit Berdiaev. Oui. Je crois qu'il faut bien noter que pour toute une série, souvenez-vous, Kierkegaard, c'était aussi lui le problème de la personne qui est central. Berdiaev estime même que cette philosophie est la seule à pouvoir aborder le problème de la personne. Comme Max Scheler, mais de manière différente, il souligne le lien entre personne et amour. Comment n'y aurait-il pas, dit-il, un lien profond entre la personne et l'amour, puisque l'amour est ce qui fait du moi la personne. Votre personne, c'est votre capacité d'aimer, c'est votre amour. De même, Berdiaev considère la personne comme étant avant tout une catégorie axiologique, la manifestation du sens de l'existence. Berdiaev nie également que la personne soit une substance. La personne n'est nullement une substance. Une telle conception de la personne est une conception naturaliste, étrangère à la philosophie existentielle. Plus justement, Max Scheler définit la personne comme l'unité de nos actes et leur possibilité à la fois. C'est rapide quand il dit ça, parce que c'est pas tout à fait Max Scheler. Mais Berdiaev est beaucoup plus simple que Max Scheler. Heureusement. D'une certaine manière pour nous. Hein. Pour Berdiaev, la personne peut se définir comme une unité complexe, embrassant esprit, âme et corps. La personne est totalitaire. C'est un tout. Elle est amour, elle est esprit, elle est corps. Oui, alors, c'est un peu une dispute de mots, hein. Parce que quand il dit que la personne est une unité complexe, embrassant esprit, âme et corps, je ne vois pas très bien pourquoi il rejette la substance. Et quand il dit qu'elle est totalitaire, là aussi. Mais c'est parce que pour toutes ces personnes-là, la substance est ce que la scolastique n'a cessé de répéter, la scolastique décadente, que la substance est sujet. C'est ça qu'ils ne peuvent pas. la personne n'est pas substance, elle est permanence sous les changements, création à travers une activité incessamment renouvelée, d'une forme constante, unique, irremplaçable. La création est en effet pour Berdiaev l'une des dimensions essentielles de la personne. L'homme crée sa personne et dans la puissance créative, il exprime cette personne. Donc l'homme se crée tout le temps. Là, c'est assez proche de Nietzsche. C'est pas, c'est cette potentialité de créativité constante. Dans l'autoconstruction du moi, de la personne, l'esprit humain accomplit un acte créateur de synthèse. L'homme n'est pas seulement appelé à la puissance créatrice comme activité du monde et sur le monde. Il est lui-même puissance de création. Et sans cette puissance, il n'y a pas de personnalité. Vous voyez alors, c'est le point de vue de la créativité de notre propre moi qui est notre personnalité. On passe de l'agir au facere. La personne, c'est la réalisation à l'intérieur de l'individu naturel, de son idée, du dessein de Dieu à son égard. Elle suppose donc une action créatrice et la conquête de soi. Alors notez, parce que ça va nous intéresser un peu plus tard, pour Berdiaev, il faut bien distinguer individu et personne. L'individu est d'ordre naturel, biologique et sociologique. Non seulement l'animal et la plante, mais la pierre est un individu. La personne, au contraire, est une catégorie spirituelle et éthique. Elle est l'œuvre de l'esprit s'emparant de la nature. Elle est le dépassement de la nature. Elle est créée spirituellement et réalise l'idée divine de l'homme. La personne n'est pas nature, mais liberté. Mais alors on retrouve ce qu'on retrouve constamment aujourd'hui. L'individu est partie de l'espèce et de la société. La personne, par contre, est hors du monde et ne peut être pensée comme partie d'un tout quelconque. Elle est microcosme, elle est microtheos. C'est un mot inventé par lui. Un petit dieu. La personne, je suis mon petit dieu. Je suis le petit univers par mon corps et je suis par mon esprit un petit dieu. Alors retenez l'expression parce qu'elle est assez jolie de dire un micro-théos. Vous pouvez vous présenter comme ça. Je suis un micro-théos. Elle n'est partie de rien. Mais c'est là, on voit ce souci d'originalité. Quand il n'y a plus beaucoup d'originalité de la pensée, on met l'originalité du côté des mots. Elle n'est partie de rien. Forme intégrale, unité créatrice, elle n'est pas elle-même composée de parties. La personne se distingue de toute espèce de particulier par le fait qu'elle est capable d'enfermer un contenu universel. C'est en universalisant son contenu qu'elle se réalise. Ce qu'une simple partie ne saurait faire. La personne est ainsi conçue d'une façon dialectique. La personne est l'antinomie incarnée de l'individuel et du social, de la forme et de la matière, de l'infini du fini, de la liberté du destin. Et la synthèse de toutes les oppositions. Et en réalité, elle est liberté. En réalité, elle est infini. Microtheos. personne joue le double rôle du masque. Donc il reprend la première idée de la personne qui est le point de vue du masque chez les Grecs, vous vous souvenez? Permettre la communication et en même temps cacher. La personne est avant tout masque, dit-il. Par le masque, l'homme s'en trouve au monde, mais aussi se protège comme la distraction causée par le monde. Je suis la distraction du monde. Très curieux. Le monde est se développe dans une nécessité. La personne est liberté. Donc elle est une rupture par rapport à cette nécessité. Et alors elle est masque. Elle est figure. Mais ce que Lévinas reprendra à sa manière, en parlant tout le temps des figures. Cependant, il semble bien que pour Berdiaeff, ce soit la communication qui est le plus d'importance. La personne se réalise dans les rapports cosmiques et sociaux. Aussi cet aspect de la personne et de la valeur. D'où l'axiologie. L'axiologie, c'est la philosophie des valeurs. Alors, il y aurait à regarder Lavel. Il y aurait à regarder Sciacca, un philosophe italien. Lui aussi conçoit la distinction de l'individu et de la personne de cette façon. L'individu est substance, c'est-à-dire essence qui est, et est donc un et incommunicable. En ce sens, tout être organique est individu. Mais l'individu n'est pas encore sujet. Le sujet, c'est l'individu sentant. Pensant, c'est-à-dire doué d'un principe actif, ayant en soi la raison de sa propre réalité. Le sujet est cause de lui-même dans l'ordre de la nature, mais non principe de lui-même. Le sujet humain est plus que sujet sentant, car il a l'intelligence ou intuition de la vérité première ou de l'être. Donc, vous voyez, l'opposition entre la personne et l'individu. Le sujet spirituel comme tel est personne. Voilà la personne. C'est le sujet spirituel. Sciacca peut donc résumer ainsi sa définition de la personne. La personne est individu et donc substance, ou l'acte par lequel la naissance est, qui est aussi sujet. Donc, oui, individu qui devient sujet, qui est sujet. Sujet sentant, sujet intellectif, doué d'intelligence, de vérité et de l'être. Et encore raisonnant et voulant, et donc sujet humain. Ayant conscience de lui-même. La différence entre individu et personne, estime Sciacca, n'est pas négligeable, même si l'homme est inséparablement individu et personne. Oui, l'individu est beaucoup plus étendu, la personne est comme le sommet de l'individu. Et dans l'homme, individu et personne vont se dire. Et c'est ça qui permettra de comprendre ce que représente la personne humaine. Sciacca distinguera encore individualité-personnalité. La l'individualité et le devenir de l'homme comme individu, la personnalité et le développement de l'homme comme personne. C'est très curieux comme, vous voyez, l'abstrait et le concret. Vous voyez ce qu'il fait de l'abstrait. Le co et le quad. Il reprend la personnalité et le développement de l'homme comme personne. L'individualité et l'ensemble des actes naturels que nous appelons aussi humains. Alors, il y aurait à noter, chacun joue un très grand rôle en italien. Un rôle analogue à Maritain en France. C'était vraiment le philosophe catholique, chrétien. Et alors, existentialiste, à sa manière. Beaucoup lutté contre Croce, qui était l'athée néo-hégélien. Tout un aspect très intéressant. Alors, c'est intéressant, chacun, c'est pas nul, hein, du tout. C'est pas du tout. Mais non, mais c'est la différence. Vous voyez, chez les autres, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de contenu de pensée. Lui, il est vraiment héritier de toute une pensée chrétienne, de toute une scolastique, qu'il essaie de renouveler, de reprendre comme il peut. Il y aurait à citer également la personne activité vécue d'auto-création et de communication. Alors vous avez là Mounier, la revue Esprit. Mounier, à sa manière, d'un point de vue peut-être beaucoup plus politique, est au point de départ de tout le mouvement de la personnalisation. Mounier estime qu'on ne peut définir la personne car elle n'est pas un objet et ne peut se saisir que de l'intérieur. Donc vous retrouvez toujours ces mêmes affirmations. Elle est la seule réalité que nous connaissions et que nous fassions en même temps du dedans. Elle est une activité vécue d'auto-création, de communication et d'adhésion, qui se saisit et se connaît dans son acte, comme un mouvement de personnalisation. La personne se révèle à nous sous divers aspects. Son incarnation qui la conditionne, sa vocation qui l'unifie et l'appelle à se dépasser indéfiniment. Sa liberté qui est une liberté d'engagement, la liberté de découvrir elle-même sa vocation et d'adopter librement les moyens de la réaliser. Enfin, la communion, en vertu de laquelle la personne est une présence dirigée vers le monde et les autres personnes. Ces divers éléments ne permettent pas de donner de la personne une définition proprement dite. Cependant, Mounier estime qu'il est possible de donner de la personne une désignation, pas une définition, mais une désignation, que puissent admettre les diverses philosophies personnalistes. Alors je vous lis ce passage. Une personne, c'est de lui. C'est dans le manifeste au service du personnalisme. Une personne est un être spirituel, constitué comme tel par une manière de subsistance et d'indépendance en son être. Elle entretient cette subsistance par son adhésion à une hiérarchie de valeurs librement adopté. engagement responsable et une constante conversion. Elle unifie ainsi toute son activité dans la liberté et développe par surcroît, à coup d'acte créateur, la singularité de sa vocation. Mais c'est une définition assez complexe qui est une désignation. Désigner une personne. Vous voyez, le point de vue psychologique et le point de vue philosophique sont très très liés. Alors pour Mounier, la vocation de la personne, c'est redécouvrir la première personne. C'est le sommet. Vous retrouvez l'attitude mystique. Mais Mounier n'a pas développé du tout ce point de vue. Il a développé avant tout le point de vue de la personne engagée dans la communauté et dépassant la communauté. C'est tout le mouvement du personnalisme. Il faut lire les premiers numéros de la revue Esprit. Parce que la revue Esprit, aujourd'hui, n'est plus tout à fait fidèle à son point de vue du départ. Parallèlement à Mounier, un peu dans le même sens, la position de Nédoncel. L'ordre pur de la personne désigne la vie de Dieu en nous. Position de Nédoncel concernant la personne est assez bien définie dans ces lignes de la réciprocité des consciences. Et Nédoncel alors définit la personne pour qui veut connaître le statut métaphysique de la personnalité. La voie la plus facile est celle de la réciprocité humaine. Et c'est pourquoi nous l'avons choisi, à plus forte raison, quand le moi découvre que son essence n'est pas séparable, mais qu'elle est en Dieu et par Dieu. S'éveillera-t-il au caractère unifiant et transhistorique de la personne? Vous voyez, c'est très curieux, hein? La réciprocité, où existe-t-elle? Dans l'amour d'amitié. En réalité, c'est dans l'amour d'amitié que Nédoncel découvre la personne. La réciprocité aimante est la cause même de l'identité personnelle. Loin de se définir par l'incommunicabilité, la personne requiert au contraire la définition opposée, car elle est seule à être communicable. C'est dans la communicabilité, et la communicabilité atteint son sommet dans la réciprocité, que la personne va pouvoir se définir. Et on a vraiment cherché toutes les possibilités de définir la personne. Depuis la substance individu jusqu'à la réciprocité aimante. La communicabilité la plus absolue. Maurice Nédoncel précise cependant que la réciprocité humaine ne fait pas surgir de toute pièce l'existence personnelle. Qu'elle trouve le j'aime personnel comme une donnée et que sa causalité consiste à ratifier ou à promouvoir. Donc, il reconnaît qu'il y a quelque chose d'antérieur à la réciprocité, mais il ne le définit pas beaucoup. « S'il y a une notion de personne, il n'y a pas d'idée générale de la personne. Cependant, si on contemple l'expérience du moi ou du toi, avec le tour d'esprit qui convient à la nature, la personne ressemble à une idée et la communion à une participation objective. L'entreprise de décrire la vie personnelle à l'aide de concepts est dès lors inévitable. Quels seront donc les aspects conceptuels de la personne? Ce seront les traits de la personnalité réfractée dans la nature ou les traits de Dieu réfractés dans la personnalité humaine. Et vous retrouvez l'imago Dei. La personne, c'est l'imago Dei. C'est le reflet de Dieu dans la personne. Mais voyez, c'est très curieux cela. C'est en premier lieu la communicabilité. Mais il y a bien quelque chose de fondamental. Ce quelque chose de fondamental va s'exprimer par le point de vue des concepts et des idées. Il y aurait à regarder Blondel. Blondel. Il faut lire un peu de Blondel pour comprendre la formation. Non, je lis ça, c'est pour que vous compreniez, parce que je crois que c'est important, que le problème de la personne est quand même central dans toute la philosophie contemporaine. Même si vous ne les connaissez pas, il faudra les connaître. Si vous voulez être un tout petit peu au fait de la pensée contemporaine, il faut quand même toucher ces personnes, ces philosophes. Blondel a formé tout, j'allais dire, toute la pensée quantité d'évêques d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez comprendre un tout petit peu le fond, parce que je vois que ça vous ennuie complètement, moi je veux bien sauter complètement, hein. Mais je le fais parce qu'il y a toute une partie qu'on est obligé de comprendre, voulez-vous. Je comprends très bien que ça ne vous amuse pas beaucoup. Mais il y a un aspect qu'on doit comprendre. Oui, c'est pour vous montrer qu'on est obligé de comprendre un tout petit peu ces gens-là. Alors, au moins, retenez les titres. Je ne vous demande pas plus. Mais il faudra un jour regarder ces philosophes. Autrement, on dira, mais ah, vous êtes thomiste, vous ne connaissez rien à la pensée contemporaine. Alors, je crois qu'il faut le faire, vous voyez. Alors, je sais bien que vous avez très peu de temps pour philosopher. Mais il faut au moins connaître que le point de vue de la personne est central de toute la personne, de toute la philosophie contemporaine. Il faut au moins connaître ses noms et avoir lu un livre de ces personnes. Je ne dis pas la première année, hein, mais en troisième année. Si vous ne le faites pas du tout, on dira voilà. Vous ne vous êtes pas ouvert. Je pourrais traiter toute l'année Blondel, hein. Je n'ai pas du tout l'intention de le faire. Mais il faut au moins connaître que Blondel a joué un rôle fondamental dans la pensée chrétienne de la France, la pensée catholique de la France. Parce que j'ai l'impression que ça vous ennuie profondément. Alors, je crois que je suis obligé de le faire. Alors, essayez de vous intéresser. Réveillez-vous un peu. Bon, pour Blondel, la personne, c'est ébauche d'être. La personne, pour Blondel, n'est pas encore l'être véritable. Elle est de l'être, sans doute. Mais n'est pas encore un être, au sens fort. Puisque seul Dieu est être véritablement absolu. Voyez l'ontologisme de Blondel. Oui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout ce que nous avons vu implique un ontologisme constant. réfléchis un tout petit peu à toutes ces perspectives. Si la personne est bien douée d'unité, de spontanéité, de pérennité, les trois caractéristiques fondamentales que Blondel appelle le trépied de l'être. Unité, spontanéité, pérennité. Il ne faut cependant pas en conclure que la personne soit l'être même, un être capable de se consolider, de se suffire comme une substance constituée. Dans son unité, son autonomie, sa persistance définie et définitive. Là encore, opposition par rapport à la substance. Blondel le prouve en montrant qu'il n'y a pas pour la personne de véritable unité, ni de véritable autonomie, ni de parfaite pérennité. La personne n'est qu'une ébauche d'elle. Un devoir être. Et l'aspect moral, devoir être, l'aspect conscient. La personne, c'est ce qui nous pousse toujours à aller plus loin, un devoir être. Mais si elle n'est qu'ébauche, elle est déjà un commencement, in quatio quaedam, dit Blondel, en reprenant ce qui est très significatif, une expression qui, chez saint Thomas, s'applique à l'ordre surnaturel. Confusion chez Blondel entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, en fonction de son ontologisme. Je me souviens de la réaction d'un cher évêque. J'aime beaucoup. Non, mais mon père, vous êtes sévère pour Blondel. Nous avons, nous, été formés avec Blondel. Alors, ça fait comprendre des quantités de choses, vous savez. Je ne dis pas les derniers évêques, hein, mais des évêques très classiques, c'était des évêques les plus classiques, qui étaient au fond. Aborder saint Thomas à travers Blondel. Elle nous met sur le seul et vrai chemin de l'être, la personne, sur la voie du dépassement de l'ordre contingent, dans cette tension vers l'infini qui a conduit à la définir, dit Blondel, comme capax entis. Seul Dieu peut donner aux êtres personnels la plénitude sans laquelle leur existence ne serait pas achevée. Alors vous voyez tout de suite, hein, mettre en parallèle capax entis et capax dei, je crois que ça définit l'ontologisme. Je vais maintenant aborder quelqu'un sur lequel je vais rester un peu plus longtemps. C'est Maritain. Mais vous verrez que Maritain est dépendant de tout ça. C'est pour ça que je vous l'avais donné. Voir que ce n'est pas original du tout chez Maritain. C'est tout un aspect qu'il a assumé. On essaie de comprendre la personne dans la perspective moderne. Jacques Maritain, de son côté, a essayé d'éclairer les récentes recherches sur la personne, spécialement celle de Mounier, en revenant à saint Thomas. Mounier a joué un rôle sur Maritain. Donc il est revenu à saint Thomas, et c'est le mérite de Maritain. Mais il est revenu à saint Thomas à travers tout ça. C'est ce que certains voudraient, qu'on assume tous ces modernes et qu'on revienne à saint Thomas à travers ces modernes. Et alors, c'est là où on voit, à ce point de vue-là, Maritain est extrêmement intéressant. C'est là qu'on voit que vouloir revenir à saint Thomas à travers les modernes, c'est impossible. C'est un voile. On essaiera de comprendre pourquoi. Mais c'est intéressant de voir que le problème de la personne fait revenir à saint Thomas. De ce point de vue-là, c'est très intéressant. Vous avez, j'espère, constaté que constamment, tous ces philosophes avaient la hantise de la substance. S'ils ont la hantise de la substance, ça prouve que la substance n'est pas entièrement perdue. Mais elle est rejetée. Quand on a la hantise de quelque chose, ça peut qu'on est hanté par ça. Et donc, que c'est sous-jacent. Et constamment, là, il faut que la personne soit le dépassement de la substance. Il faut qu'elle s'oppose à la substance. Alors, d'une façon différente, et ce serait ça qui serait intéressant à noter, que chacun s'oppose à la substance d'une façon différente. Vous voyez ? Ce qu'on vient de lire pour Blondel, c'est que la substance est parfaitement autonome. Donc Blondel reste dans l'idée de la substance de Spinoza. Or la personne, c'est pas ça, parce qu'elle serait Dieu. Ou la substance, c'est le sujet. C'est tout à fait différent. Alors on trouve cette hantise de la substance, ce rejet. Alors Maritain ne l'a pas du tout. Puisqu'il veut revenir à saint Thomas. Alors vous allez voir comment. On comprend comment, dans la mesure où le personnalisme moderne consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique, nous dit Geffray, c'est assez juste. Donc, on comprend comment, dans la mesure où le personnalisme moderne consiste essentiellement en une subjectivation de l'éthique, on en arrive à opposer personne et nature, alors que saint Thomas, dans un regard métaphysique beaucoup plus pénétrant, les avait saisis dans une idée fondamentale. Dans la perspective du personnalisme, la personne n'est plus considérée que dans son pouvoir auto-créateur, tandis que la nature est le donné qui s'impose. Donc, dialectique d'opposition entre les deux. La personne implique une intériorisation, une immanence de plus en plus profonde, dans une autonomie qui se veut totale. La nature, au contraire, est déterminée. Elle nous lie au monde animal et à telle espèce de vivant. Mais la détermination de la nature, la liberté de la personne. C'est facile de voir l'opposition entre les deux. Mais elle est très importante à saisir, hein, parce qu'elle est un des aspects très fondamentaux d'aujourd'hui. Vous voyez, le retour aux certitudes, c'est le retour à la nature. Alors qu'on s'est libéré de la nature et qu'on est dans un monde de liberté. Et l'opposition récente d'aujourd'hui entre ces théologiens modernes et le pape, c'est ça. Si vous voulez comprendre quelque chose à la crise moderne, c'est ça qu'on doit regarder. Au rêve de Compostelle, comparativement aux affaires, retour aux certitudes. Le nœud est là, donc il faut le saisir. Si on ne le saisit pas, on sera soi-même noyé. Hein. Dans 10 ans, vous serez pris par cela. Parce que c'est le climat d'aujourd'hui. Alors si on n'a pas saisi profondément et radicalement ça, on se laisse entraîner. C'est ça qu'il faut saisir. Parce que s'il n'y a pas, c'est pour ça que le Saint-Père veut la métaphysique. Parce qu'il sait très bien que s'il n'y a pas la métaphysique, on se laisse emporter. C'est tellement plus séduisant. C'est tellement plus facile, vous voyez. Cette opposition entre liberté d'un côté et nature déterminée de l'autre. Alors, bon, la nature de